on avait parlé du verset 11 déjà, mais on va commencer la lecture au verset 11. Hébreux 7, depuis le verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi, quel besoin était-il encore qu'un autre sacrificateur se levât selon l'ordre de Melchisédek et qui ne fut pas nommé selon l'ordre d'Aaron? Car la sacrificature étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont personne n'a été attaché à l'autel. Car il est évident que notre Seigneur a surgi de Judas, tribu à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Et cela est encore bien plus évident si, à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur se lève, qui n'a pas été établi selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu: tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Car il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Et en tant que cela n'a pas eu lieu sans serment, car ceux-là sont devenus sacrificateurs sans serment, mais celui-ci l'est devenu avec serment, par celui qui a dit de lui: le Seigneur a juré et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. C'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Et ceux-là étaient plusieurs sacrificateurs, parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais celui-ci, parce qu'il demeure éternellement, à la sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Car un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé plus haut que les cieux, qui n'est pas journellement dans la nécessité comme les souverains sacrificateurs d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car cela il l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même. Car la loi établit pour souverains sacrificateurs des hommes qui sont dans l'infirmité, mais la parole du serment, qui est après la loi, établit un fils qui est consommé pour l'éternité, puisqu'ici avec la parole. Nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux que l'auteur nous présente une personne beaucoup plus grande que n'importe quel personnage de l'Ancien Testament, même plus grand qu'Abraham, même plus grand que Moïse. Et nous avons vu la dernière fois, au chapitre 7, le début, qu'il est selon un nouvel ordre, il est roi sacrificateur. On a vu, selon la loi de Moïse, un sacrificateur ne pouvait pas être roi, et un roi ne pouvait pas être sacrificateur. Il y a même là une exception, pas officielle mais inofficielle. Salomon, lorsqu'il a inauguré le temple, le roi d'Israël a quand même fonctionné comme un sacrificateur, et ainsi il est une image vraiment du Seigneur Jésus, comme on trouve ici, comme roi sacrificateur. Et on a vu donc la dernière fois que dans ce Melchisédek, nous avons une image de l'Ancien Testament qui nous parle du Seigneur Jésus comme roi sacrificateur et qui représente un nouvel ordre, un ordre qui met de côté l'ancien ordre selon la loi de Moïse. On a vu plusieurs détails concernant sa grandeur. Et il est dit au verset 7 qu'il est plus excellent. Maintenant, le verset 11 et les versets qui suivent nous parlent de l'insuffisance du système selon la loi qui est insuffisant, qui ne pouvait jamais satisfaire le cœur de Dieu et qui ne pouvait pas produire un sacrificateur comme le Seigneur Jésus. À la fin du chapitre, nous voyons les perfections du Seigneur Jésus comme fils sacrificateur. Donc, verset 11 constate clairement que la perfection n'était pas avec la sacrificature lévitique. Qu'est-ce que ça veut dire, la perfection? Dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, la perfection veut dire une conscience, et on verra cela au chapitre 10 surtout, une conscience pure pour être dans la présence de Dieu. Avec l'ancien ordre, si quelqu'un pouvait amener un sacrifice, selon la loi de Moïse, il pouvait peut-être avoir une mauvaise pensée deux minutes après, il s'apprenait encore un autre sacrifice. Tandis qu'avec le sacrifice parfait, comme on verra dans chapitre 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, il y a un état de perfection qui compte devant Dieu pour toujours. Le sacrifice était parfait une fois pour toutes et le résultat était parfait une fois pour toutes. On va revenir à ça dans plusieurs fois. Tandis qu'avec la sacrificature lévitique, cette perfection n'était pas là, pas du tout. Et c'est pour cela qu'il avait besoin d'un autre sacrificateur. Donc, le raisonnement est, si la perfection était déjà là avec la sacrificature lévitique, il n'aurait pas besoin d'un autre sacrificateur. Mais vu le fait que la perfection n'était pas là, il y avait donc le besoin d'un autre sacrificateur. À la fin du verset 11, le mot « autre » là, c'est un sacrificateur différent, un sacrificateur d'un nouvel ordre. Il faut vraiment comprendre cela, parce que le mot « autre » peut dire quelqu'un du même ordre, une autre personne du même ordre. Non, ça c'est pas la pensée ici. C'est un autre sacrificateur qui représente un autre ordre de choses. Ça c'est la pensée ici. Et c'est beau de voir à la fin du verset 11, qui se leva selon l'ordre de Melchisédek, donc selon ce nouvel ordre. Et se lever ici, c'est un mot, une caractéristique pour le Seigneur Jésus. C'est vraiment très beau de voir ça. Ce mot est utilisé plusieurs fois dans le Nouveau Testament par rapport à la venue du Seigneur Jésus. Maintenant, verset 12, « Car la sacrificature étant changée, il y a aussi par nécessité un changement de loi. » Donc, quel est le point ici? On a vu donc, la perfection n'était pas là par la sacrificature lévitique, et cette sacrificature lévitique était avec la loi, car c'est en relation avec elle que le peuple a reçu sa loi. Donc, si l'un n'est plus bon, l'autre n'est plus bon non plus. Et verset 12 constate donc que la sacrificature a été changée, ça veut dire un nouveau sacrificateur selon un nouvel ordre. Si Dieu introduit un nouveau sacrificateur, un autre sacrificateur selon ce nouvel ordre, ça prend donc effectivement un changement de la loi. Ça c'est son argument. Et le mot changement ici au verset 12, c'est un changement radical, c'est un changement total, c'est un changement permanent. Ça veut dire, avec ce changement d'un ordre de choses, Dieu a introduit un nouvel ordre qui est permanent, et ce mot changement veut dire un changement radical. C'est intéressant de voir que ce mot est utilisé, par exemple, dans chapitre 11, verset 5, par rapport à l'enlèvement, et non, par la foi, Enoch fut été enlevé pour qu'il ne vive pas la mort. Il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. qu'avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Le mot enlèvement ici, c'est le même mot que changement ici. Donc ça peut nous aider à comprendre que c'est vraiment un changement radical. Et dans Hébreux 12, verset 27, il est dit, encore une fois, indique le changement des choses muables comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. Vous voyez, un changement radical. C'est le même mot qui est utilisé ici dans Hébreux 12, verset 27. Un changement radical, final, définitif, permanent. Verset 13. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc maintenant, il donne le pourquoi. Pourquoi ça prenait un changement de loi aussi, avec l'introduction d'un nouveau sacrificateur? Parce que, selon la loi de Moïse, il y avait les sacrificateurs de la maison d'Aaron. Et seulement les descendants d'Aaron pouvaient être souverains sacrificateurs, et sa maison, les sacrificateurs aussi. Et c'est clair que le Seigneur Jésus est d'une autre tribu, c'est la tribu de Juda. Donc personne n'a été attaché à l'autel, c'est clair. Le mot autel ici représente tout le système judaïque. Donc le service des sacrificateurs, tout s'est capté, s'est mis ensemble par ce mot autel. Et on verra plus tard dans chapitre 13, verset 10, que maintenant ce nouveau système auquel nous appartenons, c'est aussi résumé par ce mot autel. Hébreux 13, verset 10, nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Vous voyez, nous avons un autel, nous aussi. Mais c'est un autre autel, c'est un autel qui appartient à un nouvel ordre de choses, qui ne va pas ensemble avec le vieil ordre. Vous voyez toujours ce contraste. Pour revenir maintenant à Hébreux 7, il dit, il est évident que notre Seigneur, ça c'est beau, est-ce qu'on se rappelle, Melchisédek était roi sacrificateur. Le Seigneur Jésus est vraiment selon ce nouvel ordre, et il est et roi et sacrificateur. Son nom, Seigneur, représente ce côté-là, cet aspect-là. Il est roi, notre Seigneur. Il est le roi des rois. Et cela a été, vous pouvez vérifier ça dans l'Ancien Testament, Genèse 49, verset 10. Jacob avait déjà parlé de cela, que de Judas, il y aurait quelqu'un qui se lève pour être ce roi. Dans Michée, chapitre 5, verset 2, il y a une belle référence. Son origine est de l'ancienneté, parce qu'il est Dieu lui-même aussi. Et il serait né à Bethléem, de la tribu de Juda. Bethléem était dans le territoire de Juda. Et on voit dans une autre prophétie, Zacharie 6, verset 13, que le Seigneur Jésus, dans le millénium, il sera roi et sacrificateur sur le trône de Dieu. Et ainsi, dans le millénium, ce sera accompli sur la terre. Mais pour nous, le Seigneur Jésus est dans le ciel. Il est assis sur le trône du Père. On voit ça souvent dans Hébreux. Il est assis maintenant. Il a tous les droits, toute autorité. Il est le vrai roi. Et en même temps, il est donc ce sacrificateur duquel on parle maintenant. Et le mot « surgit » ici souligne encore, comme la note l'indique aussi, il s'est levé, et c'est le mot dans l'Ancien Testament qui est utilisé pour le germe. Le germe qui nous parle donc d'un nouveau début que Dieu a introduit, et une nouvelle puissance, une puissance de vie, comme on voit aussi dans ce chapitre qu'on a lu. Et cette puissance de vie est vraiment bien captée par ce mot « surgir ». C'est donc une nouvelle puissance que l'ancien ordre ne pouvait jamais produire, jamais. Ça implique aussi la puissance de la résurrection, comme on verra dans les versets qui suivent. Avec le Seigneur, il y a la vie, comme on voit aussi avec Melchisédek déjà, l'image du Seigneur Jésus. on a vu la dernière fois qu'il vit. Il demeure, verset 3, il demeure sacrificateur à perpétuité, et au verset 8, mais là, celui de qui il est rendu témoignage qu'il vit. Donc, l'emphase est sur cette vie, une nouvelle puissance, et ça va ensemble avec ce mot « surgir ». Verset 15, cela est encore bien plus évident si à la ressemblance de Melchisédek un autre sacrificateur se lève. Donc ici, l'emphase est sur le sacrificateur. Verset 14 souligne le fait que le Seigneur est roi, mais il est sacrificateur selon ce nouvel ordre. Et là, j'aimerais souligner que le nom Melchisédek est utilisé 8 fois. Pourquoi je souligne cela? 8 fois. Le nombre 8 dans la Bible parle d'un nouvel ordre. On voit cela, par exemple, dans le psaume 8. Le psaume 8 introduit le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme qui représente ce nouvel ordre des choses. Et ainsi, Melchisédek est aussi mentionné 8 fois dans le Nouveau Testament et seulement dans l'Épître aux Hébreux. Et de nouveau, un autre sacrificateur. Donc, il représente un autre ordre, comme nous avons déjà vu. Il se lève. Il se lève. Il a surgi de cette tribu-là, de Judas, et il se lève. Et on a vu cela aussi au verset 11. Il se lève. Ça nous parle encore de cette énergie qu'il a. Et ça inclut donc la pensée de la résurrection. Avant sa résurrection, le Seigneur Jésus n'était pas sacrificateur dans ce sens-là. On a vu, dans chapitre 2, le Seigneur Jésus était seulement sacrificateur par rapport à l'œuvre de la propitiation à la croix. Mais ici, il est sacrificateur dans une nouvelle vie, comme le verset 16 dit, une vie impérissable, interminable. Cette vie ne peut pas être terminée. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Que maintenant, le Seigneur Jésus, comme homme dans la gloire, il ne peut pas mourir. Et c'est aussi beau de voir que nous avons reçu cette vie, nous comme croyants, notre corps peut encore mourir, mais cette nouvelle vie que nous avons reçue par la grâce ne peut pas mourir. Comme le Seigneur Jésus, dans la gloire, comme homme, c'est évident, comme Dieu, il ne peut pas dormir. Comme Dieu, il ne peut pas mourir, mais comme homme, il pouvait mourir sur la terre. Mais comme homme glorifié dans le ciel, l'homme ressuscité, il a maintenant cette puissance d'une vie impérissable, il ne peut pas mourir. C'est selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, je souligne encore cette puissance qui est en lui, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16. Et dans Romains 1, verset 4, il est appelé aussi Fils de Dieu, et l'emphase est mise sur cette puissance qui s'est manifestée dans sa résurrection. Là, nous voyons cette puissance de vie et une puissance impérissable. Pierre le dit aussi que c'était impossible que le prince de vie soit gardé par les liens de la mort. C'était impossible. Voilà le contraste. À la fin, j'espère résumer encore quelques points de ces contrastes. Ce contraste ici entre l'ancien ordre, marqué par la mort, marqué par un commandement charnel, le nouvel ordre est selon cette puissance d'une vie impérissable. Et là, il cite de nouveau ce psaume 110, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Il faut toujours voir, ce passage est cité à peu près 4-5 fois dans Hébreux, c'est chaque fois dans un autre contexte, chaque fois il y a l'emphase sur un autre élément. Ici, l'emphase est sur l'expression pour l'éternité. C'est pour souligner donc qu'il n'y aura pas de fin à cet ordre. Verset 18, car il y a abrogation du commandement qui a précédé. Qu'est-ce que ça veut dire? Abrogation veut dire une mise de côté. On voit cela aussi à la fin du chapitre 8. Je veux juste lire ce verset 13. En disant une nouvelle, il a rendu ancienne la première, parce qu'il devient ancien et qu'il vieillit, est prêt de disparaître. Donc, il y a l'abrogation de l'autre ordre pour introduire un nouvel ordre des choses. Et je répète, on a vu un nouveau sacrificateur, ça implique aussi une nouvelle loi, un nouveau commandement, ça implique, et puis on verra cela dans le chapitre 8, cette nouvelle loi, c'est la nouvelle alliance. Donc on va garder cet élément-là pour le chapitre 8, la prochaine fois. Ensuite, on verra au chapitre 9, s'il y a une nouvelle sacrificature, un nouveau sacrificateur, et une nouvelle loi, une nouvelle alliance, c'est clair qu'il y a avec cela aussi une nouvelle sphère où il travaille. Il ne travaille pas sur la terre comme Aaron l'a fait, il travaille dans le ciel. Et on verra cela au chapitre 9. Et là, on verra aussi que pour tout cela, il avait besoin d'un nouveau sacrifice. Les sacrifices, selon la loi de Moïse, ne pouvaient jamais être suffisants pour mettre la base pour ce nouvel ordre de choses. Ça a pris le sacrifice parfait du Seigneur Jésus. Une fois pour toutes. C'est ça qu'on va voir dans chapitre 9 et 10. Sur cette nouvelle base, on verra aussi qu'avec ce sacrificateur, il y a une compagnie de sacrificateurs, c'est vous et moi. Les croyants sont des fils sacrificateurs ensemble avec le Fils, le sacrificateur. C'est tellement beau de voir comment nous sommes les compagnons du Fils de Dieu. On a vu cela déjà dans Hébreux 1. Et ainsi, il y a donc une nouvelle compagnie attachée à cette merveilleuse personne, une nouvelle famille d'adorateurs. On verra cela aussi au chapitre 10. Notons maintenant au verset 18, il y a deux éléments qui sont soulignés par rapport à cet ancien ordre. Il y avait la faiblesse et l'inutilité. La faiblesse, ce mot est quelquefois traduit par maladie. Ça veut vraiment dire qu'il n'y avait pas de force, comme Romains 5 le dit. Nous n'avions pas de force non plus. Pourquoi est-ce que ce vieux système était faible? Parce que l'homme était faible. L'homme était sans force. C'est illustré dans l'homme impotent, dans Acte 4, lorsque Pierre et Jean montaient au temple, ils ont rencontré ce mendiant qui était là, il ne pouvait pas se lever, impotent. C'est une illustration de ce vieux système. Dieu l'a remplacé par quelque chose de tout nouveau. On voit cela dans cet homme, il pouvait se lever, il a mis sa foi dans le Seigneur, dans la gloire. Ça, c'est le grand changement. Au lieu de mettre sa confiance dans la loi de Moïse, dans tous ses commandements, il a mis sa confiance dans le Seigneur, dans la gloire. Et c'est par lui qu'il a pu marcher. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Le fait que nous sommes des croyants qui peuvent maintenant marcher pour la gloire de Dieu, c'est parce que nous avons mis notre confiance dans le Seigneur, en qui il y a toute puissance. Donc, par rapport à lui, aucune faiblesse. Par rapport à lui, pas d'inutilité. Le mot inutilité veut dire sans profit. Ce vieux système ne pouvait pas profiter. On n'avait pas de profit à tirer de ce vieux système. Et entre parenthèses, la conclusion est donc donnée pour enlever chaque doute, car, verset 19, car la loi n'a rien amené à la perfection. Ça, c'est un mot très solennel. Il y a des croyants qui veulent plaire à Dieu, ils se mettent sous la loi de Moïse. Ici, la loi, il est constaté que la loi n'a rien amené à la perfection. Dans Galates 3, nous lisons, si quelqu'un se place sous la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il se place sous la malédiction. La malédiction, c'est très solennel. Dans Romains 8, nous voyons que tout ce système était faible parce que nous étions faibles. Nous ne pouvions jamais produire quoi que ce soit de bon pour Dieu. Et là, Dieu a pris l'initiative. C'est ça qu'on voit dans Hébreux. Tout dépend de Dieu. Mais, en contraste avec ce constat, le Seigneur, lui, il a amené tout à la perfection. Ça c'est clair. Si la loi n'a rien amené à la perfection, c'est le Seigneur qui a amené tout à la perfection. Ça c'est vraiment un résumé de toute l'épître aux Hébreux. C'est la perfection. Et on a vu au verset 11 déjà cette remarque. Si donc la perfection était par la sacrificature lévitique, non, on a vu, ce n'était pas le cas. Et ici, la loi ne pouvait pas amener cette perfection. Mais d'un autre côté, c'est le Seigneur qui a amené, qui a introduit cette perfection. Et ainsi, sur la base du sacrifice, une fois pour toutes, Dieu nous a acceptés et aux yeux de Dieu, nous sommes parfaits. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus pécher, mais la position que Dieu nous a donnée, c'est une position de perfection, comme on voit aussi dans d'autres écrits, comme surtout dans Éphésiens. Dieu nous a rendu agréables dans le bien-être. C'est sûr, ça, la base, ce sacrifice merveilleux, Dieu nous voit en lui. Là, il y a la perfection. Il y a d'autres passages dans la parole qui soulignent clairement que la loi ne peut pas produire cette perfection. Dans Acte 13, par exemple, lorsque Paul a commencé son premier voyage missionnaire, il a parlé dans les synagogues, là, et à la fin de Acte 13, il mentionne cela clairement, que par la loi de Moïse, on ne peut pas recevoir cette perfection. C'est impossible. Donc ça c'est un côté négatif. L'abrogation de ce système-là, la mise de côté, parce que ce système ne pouvait jamais produire la perfection. Le côté positif, c'est l'introduction, et notons maintenant, d'une meilleure espérance. Vous voyez, ici c'est ce nouvel ordre de choses qui a été introduit. J'aime cette pensée « introduction ». Vous connaissez l'histoire de David lorsque Samuel est venu pour oindre un des fils de Jessé comme roi au lieu de Saül. Et finalement, ils l'ont appelé David. Ainsi, Samuel a introduit David dans la maison. Il était loin au milieu de ses frères. C'est vraiment une pensée touchante. Et ici, nous voyons comment Dieu a introduit avec le Seigneur Jésus, le vrai David, il a introduit un nouvel ordre de choses. Et c'est ici appelé une meilleure espérance. Pourquoi espérance? Parce qu'on est encore sur la terre. On est encore dans un monde qui rejette le Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous avons toujours cet élément d'espérance. Dans l'Épître aux Hébreux, on est en route. On est dans le désert. Et c'est pour cela qu'on a besoin de l'espérance. Le mot revient plusieurs fois. On l'a vu, par exemple, chapitre 6, verset 18. Nous, à la fin du verset 18, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée. Et ça revient tout le temps dans cette épître. Nous sommes en route et c'est pour cela que nous avons besoin d'une espérance. Mais c'est une meilleure espérance. Pourquoi meilleure? Comparons cela avec la situation d'Israël dans le désert. Leur espérance était qu'ils arrivent à un moment donné dans le pays promis. C'était le pays de Canaan. C'était leur espérance. Mais nous avons une meilleure espérance. C'est par rapport à Christ qui est maintenant dans la gloire, une meilleure espérance. Et je vous invite d'étudier l'Épître aux Hébreux simplement par rapport à ce mot « meilleur ». Quelquefois, c'est traduit « plus excellent ». On a vu le chapitre 1er. Un nom plus excellent. Dans l'original, c'est le même mot qu'on a ici avec meilleur. Un meilleur nom. Ainsi, ce nouveau système que le Seigneur Jésus a introduit est meilleur. Ça revient au moins 12 ou 13 fois dans cette épître. Et à la fin du verset 19, par laquelle nous approchons de Dieu. Voilà le résultat. Ici, nous avons un ordre de choses et nous pouvons nous approcher de Dieu. Sous l'ancien ordre, c'était impossible. Même le souverain sacrificateur, est-ce qu'il pouvait entrer dans le lieu saint? Non, jamais. Une fois par année. Et puis, on verra cela, chapitre 10, 9 et 10. C'était jamais sans le sang. Il fallait qu'il apporte le sang du sacrifice pour pouvoir entrer, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Seule exception, ce n'est pas pour vous confondre, mais c'est vraiment une belle exception, c'est Moïse. Moïse pouvait toujours avoir accès pour s'approcher de Dieu, pour être même dans la présence de l'arche. On voit cela dans Exode 25 déjà, nombre 7, qui représente donc cet ordre de choses qui ne pouvait jamais produire la perfection. Quant à sa personne, quant au privilège qu'il avait pour entrer dans la présence de Dieu, il représente vraiment, il est vraiment une image de nos privilèges. Nous avons ce libre accès. Nous pouvons être dans la présence de Dieu tout le temps. Donc ce n'est pas pour vous confondre, mais c'est juste pour montrer la richesse de la parole de Dieu, que d'un côté, il y a des grands contrastes, mais il y a aussi des parallèles. Comme Moïse pouvait être dans la présence de Dieu tout le temps, nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous approcher de Dieu tout le temps. On voit ce libre accès. Romains 5, verset 2. C'est peut-être bon de lire ce verset. Romains 5, verset 2. Parce que c'est quelque chose que chaque croyant doit vraiment saisir et nous pouvons nous réjouir dans cela. Romains 5, premier verset, ayant donc été justifié sur le principe de la loi, de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes. Vous voyez ce libre accès sur la base de cette œuvre accomplie et maintenant sur le principe de la foi, nous avons paix avec Dieu et sommes justifiés, et ainsi nous avons ce libre accès. Et dans Éphésiens 2, verset 18, il est même dit que nous avons cet accès, c'est par l'Esprit, un libre accès au Père. Et en même temps, le même verset dit, c'est par le Seigneur Jésus. Tous nos privilèges, nous avons par le Seigneur Jésus. C'est un autre verset à lire, Éphésiens 2, verset 18, qui nous parle de cette approche, de cet accès que nous avons maintenant. Et puis là, nous voyons la Trinité dans un seul verset par rapport à cela. Ainsi, nous pouvons nous approcher de Dieu. Verset 20. Ajoute maintenant un autre élément. Donc je veux maintenant résumer un peu. On a vu, l'ancien ordre était temporaire, pour un temps, ne pouvait pas continuer tout le temps. Tandis que ce nouvel ordre que Dieu a introduit, selon l'image de Melchisédek, est un ordre permanent, définitif. On a vu cela au verset 12. Ensuite, nous avons vu que par rapport à la loi de Sinaï, il n'y avait pas de perfection. Ça prenait d'autres éléments. Et on a vu cela avec le Seigneur Jésus, qui est venu selon les promesses de Dieu, qui est le vrai David, qui est venu de la tribu de Juda, que Dieu avait déjà indiqué dans l'Ancien Testament. Le troisième point que nous avons vu, et on parle de cela encore, cet office que le Seigneur Jésus a, comme le sacrificateur et comme le roi, selon l'ordre de Melchisédek, nous avons vu que ça va ensemble avec la grandeur de sa personne. Donc le point que j'aimerais souligner maintenant, sous l'ancien ordre, le souverain sacrificateur, il avait un fils, puis son fils serait le prochain sacrificateur. Et ainsi, c'était par succession qu'il avait cet office. Tandis qu'avec le Seigneur Jésus, il a aussi cet office de sacrificateur et aussi de roi. Mais c'est à cause de sa personne merveilleuse, c'est à cause de sa grandeur personnelle qu'il a cet office. Ce n'est pas parce qu'il descend de notre sacrificateur. Vous voyez, dans l'histoire d'Israël, on a eu des sacrificateurs corrompus, méchants même, qui avaient cet office, mais leur personne n'était pas en accord avec cet office. Tandis qu'avec le Seigneur Jésus, il a cet office, mais c'est parce qu'il est cette personne merveilleuse. L'autre donc contraste, on a vu cela, Dieu a mis de côté ce vieil ordre pour introduire un nouvel ordre, et ce nouvel ordre va ensemble avec un serment. Vous voyez, ça c'est donc un autre élément qui souligne, il va citer encore ce psaume 110, verset 20. Et en tant que cela n'a pas eu lieu sans serment, car ceux-là sont devenus sacrificateurs sans serment, donc ce sont les sacrificateurs selon la loi de Moïse, les descendants d'Aaron, il était sacrificateur par succession, comme descendant, sans serment. Le Seigneur Jésus est sacrificateur par serment. Verset 21. Il est devenu avec serment par celui qui a dit de lui, le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Donc c'est de nouveau une citation du psaume 110. Et maintenant l'emphase est sur ce serment. Le Seigneur a juré. Il ne se repentira pas. Ça veut dire qu'il ne changera pas d'idée. Dieu, à cet égard-là, ne peut pas se repentir, ne peut pas changer d'idée. On a quelques passages dans l'Ancien Testament, et c'est confondant pour nous où nous disons que Dieu s'est repenti. C'était seulement dans des cas où Dieu avait dit qu'il allait juger, là il a vu la repentance dans les cœurs du peuple, de n'importe quelle personne, et Dieu s'est repenti après. Mais si c'est une question du conseil de Dieu, de son propos, comme on voit avec Melchisédek, Dieu ne peut pas se repentir. Donc, il faut vraiment voir ça. Si Dieu se repent, c'est dans ses voies, et seulement s'il y a un changement de cœur dans les hommes. Mais si c'est une question des propos de Dieu, de ses conseils, il ne peut se repentir. La première fois que Dieu a juré, c'est dans Genèse 22. Lorsque Abraham a donné ce sacrifice de son fils, Dieu a juré qu'il allait bénir ses descendants. Il a béni que par lui, par sa descendance, la bénédiction viendrait à toutes les nations. Ça, c'est la bénédiction que Dieu avait promis sur la base du sacrifice et Dieu a juré. Dans Psaume 95, lorsque le peuple a manqué dans le désert, a rejeté les plans de Dieu, il voulait retourner même en Égypte, Dieu a juré que cette génération-là ne serait jamais dans le pays promis. On a vu cela dans Hébreux 3 et 4. Mais ici, nous voyons la solution. Si Dieu a juré la première fois pour donner la bénédiction, mais la deuxième fois il a juré qu'il ne pouvait pas donner cette bénédiction à cause de leur manquement, ici nous voyons la clé. Dieu a juré une autre fois. C'est par rapport à Christ, le sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est seulement sur la base de son sacrifice et sur la base de sa personne que nous pouvons jouir de la bénédiction de Dieu. Il y a une autre fois dans Isaïe 45 où Dieu a juré, et ce sera le cas dans le millénium, tout genou va se plier devant lui. Dieu a juré et tous vont confesser son nom. Ils vont plier leurs genoux devant lui. Dieu va ainsi accomplir ses pensées dans le millénium. Verset 22, c'est d'une alliance d'autant meilleure que Jésus a été fait le garant. Vous voyez encore le contraste, on a vu la loi qui ne pouvait jamais produire la perfection. Le Seigneur Jésus, il est maintenant le garant de cette nouvelle ordre de choses, une nouvelle alliance, une nouvelle loi, et de nouveau, meilleure, vous voyez, c'est une alliance d'autant meilleure. On a vu une meilleure espérance, maintenant on a une meilleure alliance, et on va revenir aux détails dans chapitre 8, que Jésus a été fait le garant. D'abord, j'aime souligner ici le nom Jésus. Ce nom revient 9 fois. Il y a d'autres fois où c'est Jésus-Christ, par exemple, mais la seule mention de son nom, Jésus, c'est 9 fois dans ce chapitre. Et chaque fois, c'est pour souligner sa grandeur. Jésus de Nazareth, Jésus qui nous parle de son humanité, de son humiliation, de son abaissement, mais en lui, il y a toute cette grandeur, toute cette beauté. Et il est le garant maintenant pour ce nouvel ordre de choses. Moïse ne pouvait jamais être le garant par rapport à l'ancien ordre. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû casser les 2 tables de la loi. Moïse ne pouvait pas être le garant de ce vieil ordre parce que le peuple avait déjà manqué tout au début. Mais le Seigneur Jésus, il est le garant. Il va garantir toutes les pensées de Dieu par rapport à ce nouvel ordre de choses. De nouveau, on voit, tout dépend de lui. Ça souligne que le Seigneur Jésus est responsable pour cet ordre de choses. Cet ordre ne peut jamais manquer. Et le Seigneur est responsable que ça va continuer pour la gloire de Dieu et aussi pour notre bien. À jamais. Encore un autre contraste, verset 23. On a vu la loi et l'ordre de la sacrificature sous la loi, c'était sans serment. L'ordre de la sacrificature du Seigneur Jésus, avec serment. Dieu a juré. Maintenant, un autre contraste. Sous la loi, il y avait plusieurs sacrificateurs, ou on pourrait traduire beaucoup de sacrificateurs, parce que la mort les empêchait de demeurer. Mais celui-ci, verset 24, parce qu'il demeure éternellement. Ce mot est vraiment encore un mot spécial. On a vu avec Melchizedek, il demeure sacrificateur à perpétuité, verset 3. Maintenant, nous voyons le Seigneur Jésus, il demeure éternellement. Comme la parole de Dieu demeure, 1 Pierre 1, c'est mentionné. Et un autre détail, juste une petite parenthèse, si nous faisons la volonté de Dieu, 1 Jean 2, verset 17 dit, parce que nous demeurons éternellement. Ainsi, nous sommes ensemble avec le Seigneur Jésus qui demeure éternellement. Et maintenant, il est dit, il a la sacrificature qui ne se transmet pas. Comme nous avons vu tantôt, le Seigneur Jésus ne peut plus mourir maintenant. L'heure est accomplie. Il n'y a plus besoin de la mort. Il a une vie impérissable qui ne peut pas se terminer. Ainsi, cette sacrificature ne se transmet pas. C'est une sacrificature intransmissible. Il n'y a pas de succession. Comme l'autre ordre, le vieil ordre, de père en fils, une succession continuelle. Et dans l'histoire de l'Église, on a imité cela, cette succession humaine. Tandis que, si nous comprenons bien notre position en rapport avec Christ, il n'y a pas de succession d'office. Et dans la parole de Dieu, nous avons une succession morale, mais ça c'est tout un sujet. Cette sacrificature ne se transmet pas. Quelle grandeur! Verset 25. De là vient aussi qu'il peut sauver entièrement. Et nous arrivons maintenant à un point important dans cet épître. Verset 25, jusqu'à la fin du chapitre, souligne la perfection que nous avons dans le Seigneur Jésus. Et notre position par rapport à lui. Et une compagnie d'adorateurs qui peut maintenant avoir ce libre accès, comme nous avons vu, dans la présence de Dieu. Et verset 25 dit d'abord, il peut sauver. Ça ne veut pas dire que notre salut n'est pas parfait. Le moment que nous avons cru, nous étions sauvés dans ce sens-là, le salut des âmes. Mais nous sommes encore dans le désert. Dans le désert, il y a toutes sortes de dangers et nous avons besoin de son aide pour nous sauver entièrement, d'une façon complète, jusqu'à l'achèvement. On est en route pour la gloire. Et c'est lui qui est garant qu'on arrivera là. Ceux qui s'approchent de Dieu, on en a parlé déjà et on verra dans chapitre 10, en plus de détails, cette approche selon ce nouveau chemin que nous avons, un chemin vivant et vrai. Et notons maintenant au verset 25, notre approche est par lui. C'est toujours le cas, c'est par lui. Aucune bénédiction peut être séparée de lui. Toutes nos bénédictions, la joie de ces bénédictions dépend de lui. C'est par lui que nous nous approchons de Dieu. Ensuite, il dit, étant toujours vivant. Et on a vu le contraste. L'ancien ordre, la mort, intervenait tout le temps. Et on avait cette succession. Maintenant, on n'a plus de succession. Et le Seigneur Jésus est toujours vivant. C'est un autre mot-clé qui revient souvent dans cette épître. Mais, il est dit, pour intercéder pour eux. Et là, il y a donc un nouvel élément qui s'ajoute. On a vu d'abord, chapitre 2 et surtout chapitre 4, l'intercession du Seigneur Jésus par rapport à nos infirmités. Nous sommes un peuple faible qui continue à travers le désert et nous avons besoin d'être soutenus. Mais ici, il tourne la page pour ainsi dire. Ici, c'est pour souligner que Dieu avait à cœur d'avoir une compagnie d'adorateurs. Et verset 26 souligne cela. Un tel souverain sacrificateur nous convenait. Ici, nous sommes vus comme fils d'une famille sacerdotale. Donc ici, ce n'est pas l'emphase sur nos besoins. Nous sommes un peuple pauvre et manquant dans le désert. Ici, l'emphase est sur le fait que nous avons un appel très élevé. Dieu voulait nous avoir comme fils d'une famille sacerdotale, une compagnie très élevée, une position merveilleuse. Et c'est pour cela que Dieu dit, voilà, pour une telle compagnie, j'ai un souverain sacrificateur spécial. Un tel souverain sacrificateur. On a vu sa grandeur, Melchisédek, sa grandeur. Mais ici, au verset 26, ça souligne notre position élevée. Ce n'est pas ce que nous sommes en nous-mêmes, c'est ce que nous sommes par rapport à lui. Nous avons une dignité. Cette dignité est par rapport à lui. Et c'est pour ça que Dieu dit, ainsi, ça vous convient. C'est un standard très élevé, comme on a vu dans chapitre 2, verset 10. Il convenait à Dieu, à cause qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, qu'amenant plusieurs fils à la gloire, il consomma le chef de leur salut par des souffrances. Ça convenait à Dieu. Ici, les sacrificateurs, les fils sont en route pour le ciel et Dieu nous voit comme des fils dans sa présence et il donne ce grand souverain sacrificateur pour nous soutenir dans ce service. Pas seulement par rapport à nos besoins, mais ici pour nous soutenir, pour que nous puissions fonctionner comme des sacrificateurs, comme des adorateurs. On va élaborer cela au chapitre 8, lorsqu'on va voir le Seigneur Jésus comme ministre des lieux saints et du vrai tabernacle, au chapitre 8, versets 1 et 2. Un tel souverain sacrificateur. Et Dieu dit, ce souverain sacrificateur, je vous donne, parce que vous avez besoin de lui pour ce service sacerdotal. Et là, il y a encore en l'emphase sur sa personne, il est saint. Ce mot est souvent utilisé dans l'Ancien Testament qui caractérise Dieu vraiment. Donc il est saint par rapport à Dieu. Il représente le caractère de Dieu. Et par application, nous avons le privilège de pouvoir représenter Dieu maintenant dans ce monde. Innocent, c'est par rapport à ceux qui l'entourent. Le Seigneur Jésus est pur, il s'entend, mais ici innocent. Ce mot revient seulement deux fois dans le Nouveau Testament. L'autre fois, c'est dans Romains 16, verset 18, par rapport à nous, que nous devons être innocents. Ensuite, sans souillure. La loi de Moïse donnait des instructions pour que les sacrificateurs puissent être sans souillure, pour pouvoir servir. Et c'était une pureté rituelle ou ritualiste. Ici, c'est une pureté inhérente, c'est une pureté que le Seigneur Jésus a dans sa personne, sans souillure. Et dans la position que nous avons devant Dieu, par le Seigneur Jésus, nous sommes maintenant aussi sans souillure. Et ça, c'est l'application à nous. Mais le Seigneur Jésus est ce grand souverain sacrificateur qui est présenté devant nos cœurs dans cette perfection. Séparé des pécheurs, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt pour les pécheurs, mais il est séparé, il n'a rien à faire avec le péché. Ça a été réglé une fois pour toutes. Il est maintenant séparé des pécheurs, il est maintenant dans la gloire. Dans le ciel, il n'y a aucune pensée du péché. Et élevé, vous voyez à la fin du verset 26, élevé plus haut que les cieux. Ça souligne encore la grandeur du Seigneur Jésus. Élevé plus haut que les cieux. Un homme que Dieu a élevé ainsi. C'est formidable. Et il y a d'autres passages dans la parole, vous pouvez lire par exemple Philippiens 2, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. On pourrait lire Éphésiens 4, où nous voyons que le Seigneur Jésus est descendu, ensuite il est monté pour qu'il soit au-dessus de toutes choses. Mais ici, il est dit élevé plus haut que les cieux. C'est pour souligner la grandeur formidable du Seigneur Jésus. Ensuite, au verset 27, qui n'est pas journellement dans la nécessité comme les souverains sacrificateurs d'offrir des sacrifices. Encore un contraste. Les sacrificateurs de l'ancien ordre avaient besoin d'offrir des sacrifices d'abord pour leurs propres péchés. C'est impensable pour le Seigneur Jésus, qui était toujours sans péché, pur, à part le péché, n'a pas connu le péché. Quel contraste. Ensuite, à la fin du verset 27, car cela, il a fait une fois pour toutes. Il a offert un sacrifice pour les péchés, ou pour le péché, une fois pour toutes. Et on verra cela chapitre 9 et 10 spécialement. Mais j'aimerais souligner maintenant un détail. Une fois pour toutes, cette expression au verset 27, ça m'a frappé beaucoup. Ça revient souvent dans cet épître. Une fois pour toutes. Et l'autre expression, pour l'éternité, je voulais dire tantôt, mais je l'ai oublié, ça va ensemble avec cette expression-là, donc une fois pour toutes, et l'autre expression pour l'éternité. Pour l'éternité se trouve 7 fois dans l'Épître aux Hébreux et 28 fois en total dans le Nouveau Testament. Donc, ça souligne encore la perfection du Seigneur Jésus. Ici, au verset 27, il est dit une fois pour toutes. On va revenir à ça dans chapitre 9 et 10. Mais qu'est-ce qu'il ajoute là? C'est un offert lui-même. Les sacrificateurs ont amené un sacrifice, un bouc, un agneau, ou d'autres animaux plus grands ou plus petits, mais le Seigneur Jésus a amené un sacrifice, c'était lui-même. Il s'est offert lui-même. Ça, c'est très touchant. Et la pensée est là aussi qu'il s'est présenté à Dieu en sacrifice. C'est inclus dans le mot offert. Quel sacrifice? Verset 28. La loi établit pour souverain sacrificateur des hommes qui sont dans l'infirmité. Donc, de nouveau un contraste. Mais la parole du serment, on a parlé du serment, la parole du serment qui est après la loi, dans le psaume 110, beaucoup plus tard, après la loi, établit un fils. Après la loi, ça ne veut pas dire que, dans le, que Dieu n'avait pas pensé à ça avant. Évidemment, dans le plan de Dieu, la pensée d'avoir un fils consommé pour l'éternité était là tout le temps, même avant que Dieu donne la loi de Moïse. C'est peut-être un peu confondant, je répète. Lorsque Dieu a donné la loi de Moïse, ça ne veut pas dire que Dieu n'avait pas encore cette pensée. Il avait, dès l'éternité, il avait la pensée d'envoyer son fils. Mais dans le temps, c'est venu après la loi. Comme le psaume 110, c'était beaucoup plus tard, après la loi. Et ainsi, Dieu a établi un fils après la loi. Et ça implique aussi, comme nous avons vu, après avoir mis de côté le principe de la loi de Moïse, il a établi un fils. Ce n'est pas seulement un nouvel ordre que Dieu a établi. C'est beau de voir ça ici. Il a établi un fils. C'est Dieu qui a présenté ce fils. C'est Dieu qui l'a introduit, comme nous avons vu. Et on a vu, tout dépend de lui. C'est donc pas seulement un nouvel ordre de choses, c'est une nouvelle personne que Dieu a introduite. Il est dit ici qu'il est consommé pour l'éternité. C'est pour souligner maintenant la perfection que le Seigneur Jésus a comme homme. On a vu déjà, il ne pouvait pas pécher, il était toujours parfait, mais il a parcouru tout ce cheminement. Il a fini, on a vu cela aussi dans Hébreux 5, par rapport à l'obéissance, il a vécu sur la terre, il a fini tout ce trajet. Et il est arrivé maintenant à la fin. Et cette pensée-là est résumée par le mot « consommé ». Et ce mot « consommé » revient souvent aussi. Comme l'autre pensée « pour l'éternité ». Ça souligne ce qu'on a vu. C'est final, c'est définitif, c'est complet. Il n'y a rien à ajouter. « Pour l'éternité ». Répété 7 fois dans cette épître. Donc, nous sommes liés à cette personne merveilleuse. Et on va revenir souvent dans cette épître, si Dieu donne encore l'occasion à cela. Cette perfection merveilleuse de notre position ensemble avec lui. J'aimerais répéter quelques points. Donc, un nouvel ordre qui amène la perfection. Le vieil ordre ne pouvait jamais amener à la perfection. Ensuite, nous avons vu que Dieu introduit quelqu'un de la tribu de Judas, pas un descendant d'Aaron ou de Lévi, en rapport avec l'homme selon le cœur de Dieu, David, les promesses que Dieu a données dans sa grâce souveraine. Un autre contraste. Ensuite, on a vu, il fallait que ce soit à la ressemblance de Melchizédek. On a vu la dernière fois. Pourquoi ? Melchizédek qui donc représente ce nouvel ordre des choses qui n'a pas connu la mort, mais dans l'histoire, évidemment, il est mort comme un homme, comme chaque homme, mais la parole ne le mentionne pas pour que Melchizédek pouvait être une illustration du Seigneur Jésus. Et ainsi, Dieu introduit ce nouvel ordre par rapport à Melchizédek. On a vu, selon la puissance d'une vie impérissable, c'est la vie de la résurrection et cette puissance que le Seigneur Jésus a par rapport à cela. Mais il est aussi le Dieu, le Fils du Dieu vivant. On a vu aussi une meilleure espérance. Et ensuite, on a vu un accès direct. Et quel privilège. Et cela sera encore souligné souvent dans cette épître. Ce libre accès que nous avons parce que l'œuvre a été accomplie. Mais on revient toujours à ça. C'est par lui. Tout ce que nous avons par lui. Donc, Dieu voulant, la prochaine fois, on pourra continuer au chapitre 8, qui donne un résumé. Mais je pense, à la fin du chapitre 7, c'est vraiment important qu'on puisse saisir deux choses. Ce que le Seigneur Jésus est et ce qu'il a fait. Et sur la base de ce qu'il est, sa personne, sur la base qu'il a fait, Dieu nous voit maintenant comme une compagnie d'adorateurs, une compagnie avec une dignité à cause de notre relation avec lui. et une compagnie de sacrificateurs qui peut être maintenant tout le temps dans la présence immédiate de Dieu. Quel privilège nous avons. Est-ce qu'on fonctionne aussi pratiquement comme adorateur pour adorer ce Dieu merveilleux, pas seulement le dimanche matin, mais lorsqu'on pense à lui, nous pouvons toujours être des adorateurs. Donc il y a beaucoup de choses pratiques à tirer aussi d'un tel chapitre pour nous stimuler, pour nous encourager à fonctionner comme des sacrificateurs qui sont dans la présence de Dieu tout le temps. Même à l'ouvrage, on peut penser à ces choses et on peut rendre grâce à Dieu, n'importe quelle place. À l'école, nous avons ce libre accès, pas seulement pour présenter nos requêtes, pour nos besoins, mais aussi ce libre accès pour venir comme sacrificateur, comme adorateur. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des choses qui doivent être soulignées? C'est un chapitre merveilleux, mais c'est assez difficile en même temps. Et ça souligne donc d'un côté sa grandeur, mais ça souligne aussi la position merveilleuse que Dieu nous a donnée, réservée pour nous, qui nous voit comme une compagnie tellement élevée, qui donne une telle personne, une telle compagnie. Le cœur de Dieu ne serait pas satisfait pour nous donner Aaron, par exemple. Dieu ne serait pas satisfait pour nous donner Aaron. Il est seulement satisfait en nous donnant un tel souverain sacrificateur. Et ça va bien ensemble avec le verset 4 que nous avons vu, Hébreux 7, verset 4, la dernière fois. Considérez combien grand était celui-ci. Considérez.